Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte satirique des médias suivants. La presse et Sius, nord de l'île de Montréal. Au programme, le pouvoir du luxe discret. 10 mythes sur le sommeil. Et menotter le génie sorti de la bouteille. Bonne écoute.
Le pouvoir du luxe discret. Un texte d'Olivia Levy, paru le 9 avril 2023 dans La Presse. Les coupes des vêtements sont impeccables. Les matières sont luxueuses, les couleurs neutres et le style épuré. Aucun logo n'est visible, ni sur les chandails, ni sur les sacs à main. Bienvenue dans le monde du luxe discret, au Quiet Luxury. Ce thème de « quiet luxury » n'est pas nouveau, loin de là, mais il réapparaît notamment à cause des personnages de la série américaine « Succession », dont l'allure monochrome est très étudiée. Ou encore avec le succès de marques comme Dereau, Brunello Cucinelli et Bottega Veneta. Leur particularité? Un design minimaliste et intemporel, des matières luxueuses, aucun logo visible et des prix extrêmement élevé. Le luxe discret est une des caractéristiques de la bourgeoisie qui estime être dépositaire du bon goût et qui se distingue de cette manière des nouveaux riches, explique Jean-Noël Capferrer, professeur à HEC Paris. Les grands bourgeois estiment qu'ils doivent se différencier par la discrétion. Et les signaux subtils qu'ils envoient sont réservés à ceux qui savent les décoder. Le sac Bottega Veneta, il faut savoir le décoder, sinon c'est un sac quelconque en cuir, tout comme les vêtements de Maison Margiela, qui est une marque très subtile et très chère. Pour Benoît Duguet, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, le luxe discret, c'est l'ultra-luxe. Ce sont des ultra-riches qui veulent se distinguer des plus riches qui achètent du Louis Vuitton. Alors ils se procurent des marques encore plus chères que seuls les initiés reconnaissent, ce qui est très prétentieux. Ce sont notamment des milliardaires qui ressentent le besoin de se distinguer des autres pour eux-mêmes, car le fait de porter un produit de luxe, c'est toujours pour améliorer l'image de soi, analyse l'auteur de Consommation et luxe. Car le luxe est par définition ostentatoire. Jean-Noël Capferrer cite le philosophe Jean-Jacques Rousseau. « On ne jouit du luxe qu'en le montrant. Le luxe, c'est le plaisir. On est dans la jouissance. C'est une notion fondamentale du luxe. On est aussi dans la méritocratie. On travaille, on gagne de l'argent et on veut montrer cette réussite. Les logos Christian Dior, Chanel, Louis Vuitton, sont les blasons modernes. Ce sont des signes mondiaux de richesse. Car nous avons les mêmes repères de réussite et de richesse qui sont ces marques mondialisées. Le luxe, c'est la diffusion de signes de réussite mondialisés, explique le professeur à HEC Paris, auteur de « Luxe, nouveau challenge, nouveau challenger ». Le luxe a toujours été visible. Le faste religieux, c'était les cathédrales, avec des dômes en or. Puis, il y a les châteaux et l'or des grandes familles. La famille Médicis en Italie, c'était le faste, le signe de la puissance qui n'a jamais été discrète, dit Jean-Noël Capferrer, professeur à HEC Paris. Stéphane Leduc, porte-parole du Collège La Salle, rappelle qu'en effet, l'opulence a toujours été présente dans les collections de marques comme Gucci et Versace, mais depuis septembre dernier, il remarque plus de sobriété. Il y a un vent de changement vers plus de sagesse. Le luxe discret prend les devants. Les couleurs sont plus naturelles, on privilégie des matières comme le cachemire, on simplifie le vêtement. Peut-être qu'il y a une prise de conscience de l'environnement ou qu'il y a un malaise face à la consommation. Alors, on continue de dépenser, mais dans des valeurs sûres, loin de l'éphémère et du clinquant. On met en valeur le savoir-faire. De Rowe, créé par les sœurs Olsen, c'est le luxe discret à prix effarant. La marque obtient un succès phénoménal, tout comme Brunello Cucinelli et Gilles Sander. C'est tout le contraire de la flamboyance et de ceux qui aiment se faire remarquer. Une déclaration de supériorité. Ce n'est pas une volonté de discrétion, au contraire, mais bien d'être encore plus ostentatoire en portant un vêtement sans logo. Ces vêtements sont au-delà du luxe, car ce sont des marques encore plus dispendieuses. Si on veut vraiment être discret, on porte des vêtements ordinaires, pense le professeur Benoît Duguay. Jean-Noël Capferrère rappelle que le luxe est avant tout une industrie, un business, et que le marché du luxe surfe sur la montée des richesses mondiales, en particulier en Asie et aux États-Unis. À chaque crise, on se pose des questions sur le luxe discret. Je reviens de Corée du Sud. Les jeunes Coréens aiment dépenser de l'argent et ne sont pas là pour le cacher, tout comme les Chinois. Ils ne s'expriment pas sur le plan politique, mais ils s'expriment par la consommation. La consommation est un territoire d'expression majeur des classes montantes qui affichent leur réussite et leur gloire, analyse le professeur. Il estime que chaque marque de luxe représente un type de goût. C'est le combat du luxe discret contre le luxe visible et du fait qu'il est plus facile de gagner de l'argent que d'avoir du goût. Le luxe discret, c'est le comble de l'ostentation. Et le comble du luxe, c'est le fait de ne pas avoir besoin de logo. Pour les ultra-riches, c'est une déclaration de supériorité, conclut Jean-Noël Capferrère. Un sac trop ostentatoire. Une scène dans le premier épisode de la plus récente saison de Succession illustre bien le fossé qui sépare les nouveaux riches des vieilles familles ultra-fortunées comme les Roy. Ça se résume à un accessoire, un sac Burberry. Bridget, la nouvelle petite amie de Greg, le cousin de la famille, porte un cabas Burberry avec le célèbre motif à carreaux de la maison de luxe britannique lors de l'anniversaire du père, Logan Roy. Or, Tom Wangsgang, un des gendres du patriarche, remarque avec mépris ce monstrueux sac ridiculement volumineux où elle peut mettre son lunch et ses chaussures plates pour prendre le métro. Beaucoup trop ostentatoire à son goût. Selon lui, le fait d'afficher ce sac Burberry, qui vaut près de 4 000 $, fait d'elle une parvenue sans classe, qui ne fait pas partie du même monde que lui. C'était « Le pouvoir du luxe discret », un texte d'Olivia Levy, paru le 9 avril 2023 dans La Presse.
Mythes sur le sommeil. Un texte du CIUS Nord de l'île de Montréal, paru le 13 décembre 2022. 1. Le sommeil avant minuit est plus reposant. Faux. C'est bien dommage, car ce mythe pourrait être bien utile pour faire coucher les enfants de bonne heure. Le sommeil comporte deux phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Ces deux phases se suivent à l'intérieur d'un cycle de 70 à 100 minutes qui se répète tout au long de la nuit. Au début de la nuit, les cycles ont beaucoup de sommeil lent et peu de sommeil paradoxal, puis les proportions s'inversent au cours de la nuit qui avance. Chaque phase du sommeil a son importance pour le corps et pour l'esprit. Par exemple, les premières heures de la nuit sont celles où l'on sécrète l'hormone de croissance pendant le sommeil. Vers la fin de la nuit, avec le sommeil paradoxal qui abonde, la consolidation de la mémoire et les rêves prennent plus d'importance. 2. Dormir une heure de moins par nuit, ce n'est pas grave. Faux. Il y a des conséquences à réduire d'une heure la durée de sommeil dont on a besoin. Les recherches nous montrent que même la perte d'une seule heure de sommeil peut affecter l'humeur, la mémoire, la forme physique, le jugement, le système immunitaire, etc. C'est d'autant plus important pour notre clientèle aux prises avec d'autres problèmes de santé, car une personne souffrante a besoin de toutes ses ressources. 3. Quand on dort, le corps est passif. Faux. Bien sûr que l'on respire plus lentement, que la température corporelle chute et que le pouls ralentit pendant le sommeil. Mais le cerveau fonctionne toujours, mais d'une façon différente. Dans l'obscurité, il amène le corps à sécréter des hormones, à synthétiser des protéines, à mener la lutte immunitaire, à réparer nos blessures physiques, à mettre en mémoire nos apprentissages et à créer nos rêves. Tout un contrat. 4. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Faux. Certaines personnes peuvent parfois avoir cette impression, mais la plupart du temps, elle n'est pas juste. En effet, on constate au laboratoire que le sommeil peut être fractionné en plusieurs courtes périodes sans que l'on s'en souvienne. Ainsi, on aura dormi un certain temps, mais ce qu'on gardera comme souvenir sera une période ininterrompue d'éveil. Ceci n'enlève rien au sentiment bien justifié d'avoir un sommeil insatisfaisant, car la fragmentation du sommeil a des conséquences très négatives sur le fonctionnement diurne. 5. L'alcool aide à mieux dormir. Faux. L'alcool peut agir comme un anxiolytique et peut ainsi faciliter l'endormissement chez certaines personnes, mais le sommeil qui s'ensuit est perturbé. L'alcool a des effets sur la température corporelle et les neurotransmetteurs. Pour dormir, il faut que la température baisse et l'alcool empêche ce phénomène. Une fois endormi, on dormira moins bien, on se réveillera plus souvent et plus tôt. 6. L'activité physique aide à mieux s'endormir. Vrai et faux. C'est l'intensité de l'activité physique qui est déterminante. Il ne faut jamais faire un exercice physique intense en soirée parce que cela vient à l'encontre du métabolisme qui se prépare à ralentir. Par contre, une marche tranquille peut être bénéfique et représenter un moment de détente si elle reste calme, sans pensée préoccupante. Soulignons qu'il y a une différence entre la fatigue et la somnolence. La fatigue, c'est l'incapacité de fournir un effort supplémentaire. Après 10 km de course, on est fatigué, mais on ne s'endort pas. La somnolence est un ralentissement de l'organisme qui prépare au sommeil. On a les paupières lourdes. Vous écoutez 10 mythes sur le sommeil, un texte du CIUS Nord de l'île de Montréal, paru le 13 décembre 2022. 7. Si on souffre d'insomnie, vaut mieux rester plus longtemps au lit. Faux. Lorsqu'on souffre d'insomnie, il faut renforcer l'association entre le lit et le sommeil. Trop souvent, la chambre à coucher sert à des activités incompatibles avec le calme nécessaire au sommeil. Télévision, téléphone, ordinateur, discussion, lecture passionnante. Tout le temps passé au lit par une personne insomniaque doit être occupé exclusivement par le sommeil, sauf deux exceptions, l'activité sexuelle et se reposer quand on est malade. Ainsi, après 20 minutes sans dormir, il est préférable de se lever, de quitter la chambre à coucher et de faire une activité calme, comme lire un magazine. On retournera au lit seulement lorsque l'on sentira le sommeil se manifester par lui-même, les paupières lourdes et l'esprit somnolent. Au début, ce n'est pas nécessairement facile, car le lit est souvent devenu le lieu où on rumine nos préoccupations, mais graduellement, après quelques nuits, cette technique pourra améliorer la rapidité de l'endormissement. Si le problème persiste, il faudra consulter un professionnel de la santé. 8. Les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil. Vrai et faux. Tout d'abord, il faut se rappeler que le besoin de sommeil varie d'un individu à l'autre. Bien que les moyennes nationales de sommeil nocturne tournent autour de 7,5 heures, près de 25 % des gens dorment 6 heures ou moins et 15 % dorment 9 heures ou plus. La meilleure façon pour déterminer son besoin de sommeil est d'observer le temps que l'on dort pendant les fins de semaine et en vacances. Souvent, les personnes âgées dorment moins que les adultes plus jeunes, mais ce changement se fait progressivement. Avec l'âge, on peut devenir un petit dormeur et le sommeil est souvent redistribué sur 24 heures, avec des siestes en journée. L'important est de vérifier si on attribue des difficultés de fonctionnement diurne à un sommeil nocturne de mauvaise qualité. 9. Grâce à la science, on pourrait avoir une bonne nuit de sommeil en 2 heures. Faux! Il n'y a pas de raccourci à la récupération physiologique et psychologique apportée par le sommeil, et cela prend du temps. Personne ne peut couper impunément son sommeil sans en subir les conséquences. Les plus petits dormeurs ont besoin d'un minimum de 4 heures de sommeil par nuit, sans exception. Seulement une minorité d'individus est capable de se contenter de si peu. On estime qu'un déficit de sommeil n'est pas sans répercussion sur la santé et l'état de vigilance. Pourquoi vouloir dormir si peu alors que le sommeil peut être si agréable? 10. Il est normal pour un adolescent de se coucher et de se lever très tard. Vrai et faux. Avec l'adolescence, l'horloge biologique qui règle le rythme veille-sommeil est un peu comme un cadran qui montre du retard. Le signal pour s'endormir arrive plus tard, mais le besoin de sommeil demeure le même, autour de 9 à 9,5 heures. D'autres éléments viennent par contre exagérer cette tendance, jusqu'au point où cela peut interférer avec les obligations scolaires. Les nombreuses activités parascolaires en soirée, les activités sociales et sportives, le travail à temps partiel rémunéré, l'utilisation de la chambre à coucher comme un repère nocturne pour des activités incompatibles avec le calme nécessaire au sommeil, voir aussi le mythe numéro 7 sur le temps passé au lit. Ainsi, le moment de l'endormissement est d'autant plus reporté car le corps et l'esprit ne sont pas prêts à s'abandonner au sommeil. C'était 10 mythes sur le sommeil, un texte du CIUS du nord de l'île de Montréal, paru le 18 décembre 2022.
Menotter le génie sorti de la bouteille. Un texte de Jean-Sébastien Bélanger, enseignant de philosophie au cégep de Sorel-Tracy, paru le 8 avril 2023 dans La Presse. Vous vous souvenez de l'époque, pas si lointaine, où les concepts de vérité et de fausseté étaient l'affaire des profs de philosophie? C'était l'époque où, dans une institution comme la mienne, les élèves les plus curieux se laissaient aller à des expériences de pensée saugrenues portant sur des thèmes qui opposaient le réel et l'irréel, pendant que les autres, terre à terre, attendaient patiemment la fin du cours afin de mieux mobiliser leurs efforts pour des leçons d'économie ou de droit susceptibles, quant à elles, d'avoir une quelconque utilité dans leur vie. C'était la belle époque. Mais voilà, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, IA. Les choses ont bien changé. La lettre du 29 mars 2023, co-signée par plusieurs développeurs et intellectuels éminents, Musk, Wozniak, Harari et autres, réclamant un moratoire sur le développement d'IA plus puissante que GPT-4, témoigne de la profondeur des bouleversements de société auxquels il nous faut désormais réfléchir. Nous ne sommes pas, comme certains voudraient nous le faire croire, devant de simples robots conversationnels, mais des entités d'une puissance inouïe, dont les effets disruptifs dans une multitude de champs d'activité humaine sont encore dans une large mesure inconnus. Que l'on pense à cette image virale du pape vêtu de manteau stylisé créé par Midjourney ou à l'entrevue mettant en scène Justin Trudeau et Joe Rogan créée avec l'aide d'une autre IA? Le même constat s'impose. Les risques d'une utilisation malveillante sont bien réels. Des scénarios comme la diffusion d'une vidéo de Vladimir Poutine annonçant que la Troisième Guerre mondiale a débuté ou l'arrivée dans votre boîte de courriel d'une photo convaincante de vous-même en pleine action avec un ou une prostituée ne nécessitent plus de progrès techniques autant qu'un travail d'assemblage à partir de possibilités existantes. Lorsque ces images, vidéos et textes fabriqués par l'IA circuleront à travers des boîtes de messagerie, fils d'actualité et réseaux sociaux, à qui ferons-nous confiance? Si plusieurs évoquent une possible chute civilisationnelle, c'est, entre autres choses, en raison d'une attaque sur ce concept qui sert de pierre angulaire à nos sociétés. La vérité. On la croyait l'affaire des philosophes. On se rend compte, avec l'arrivée de ces entités, qu'elle assure la cohésion sociale, permet le maintien des états de droit et participe au bon fonctionnement de l'économie. Plagiat et fraude. Si les possibilités associées à une utilisation malveillante des IA ne sauraient vous inquiéter, il faut savoir qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des gens investis par un désir de faire du mal pour produire des effets délétères. C'est ici que les choses sont plus troublantes. La question de la fraude et du plagiat au sein des écoles, extraordinairement facilitée par l'arrivée de l'IA, a fait, avec raison, couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois. L'une des fonctions fondamentales du système d'éducation est d'attester de l'acquisition de certaines capacités et compétences avant que l'on autorise quelqu'un à faire certains gestes et à occuper diverses fonctions névralgiques en société. Devant les possibilités nouvelles qui s'offrent en ligne, plusieurs de mes collègues sont revenus à des évaluations en classe, seule manière que nous voyons de garantir que l'épreuve à laquelle nos élèves sont conviés a été réussie grâce à leurs propres capacités. Pourtant, le cégep à distance a le vent dans les voiles et cumule annuellement à l'heure actuelle des dizaines de milliers d'inscriptions. Comment maintient-on l'équité dans un processus d'évaluation à distance? Que valent désormais les diplômes acquis d'une telle manière? Entre les murs de l'établissement bien réel où j'enseigne, plusieurs élèves me confiaient récemment, devant leurs notes plus faibles que celles de leurs collègues qui avaient utilisé des IA pour réaliser leurs travaux à la maison, qu'eux aussi, à l'avenir, feraient appel à leurs services. Est-ce de mauvais élèves ou des jeunes réalistes qui s'en remettent compte tenu du décalage qui prévaut entre les façons de faire d'un système dépassé et le monde actuel à une stratégie adaptative pertinente? Plus grave encore, et l'attitude jovialiste qui s'est emparée de plusieurs au sein de nos institutions. Ainsi, entend-on certains pédagogues proclamer, par les temps qui courent, que les connaissances déclaratives auxquelles nous accordions jadis de l'importance doivent désormais être remplacées par des capacités nouvelles d'esprit critique sur lesquelles il nous faudrait miser dans les relations inévitables que nous entretiendrons avec ces machines. Ce qui est googlable n'aurait donc plus sa place dans un examen. Une question comme ça. Comment diable une personne est-elle censée être en mesure de faire preuve d'esprit critique au sujet d'une réponse obtenue par une IA si elle ne détient pas à la base un corpus de connaissances déclaratives solides nécessaires à la construction d'un savoir plus élaboré, lui-même impliqué dans la mobilisation de cette capacité intellectuelle de haut niveau qu'est le jugement critique? L'arrivée de ces IA nous force à poser ces questions que nous avons trop longtemps balayées sous le tapis, celles qui portent sur les fondations de notre société, qui fixent les assises du système d'éducation. Que signifie, dans ce contexte nouveau, cet idéal que nous poursuivons consistant à amener des individus à penser par eux-mêmes? Comment, au juste, le fait de penser par soi-même doit-il se manifester? Quelle place nous faut-il faire à la culture générale? S'il est technologiquement possible de virtualiser l'apprentissage et de le joindre à de telles puissances technologiques, est-ce souhaitable? Quel sens nous faut-il donner à cette idée qui court consistant à s'adapter à l'IA? Sachant qu'il nous est impossible de remettre le génie dans la bouteille et que les menottes, si elles tiennent, ne sauront le contenir bien longtemps, il y a urgence pour notre société de se donner des lignes directrices. S'adapter ne veut rien dire. L'improvisation et le bricolage ne peuvent plus durer. Il faut déterminer ce qui nous importe et élaborer un plan pour y arriver. C'était « Menotter le génie sorti de la bouteille », un texte de Jean-Sébastien Bélanger, paru le 8 avril 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Justin Angevin à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.